Leibniz, Essai de Théodicée, paragraphe 405 à 417. M'étant souvenu du dialogue de Laurent Vallat sur le libre arbitre contre Boès, dont j'ai déjà fait mention, j'ai cru qu'il serait à propos d'en rapporter le précis, en gardant la forme du dialogue, et puis de poursuivre où il finit, en continuant la fiction qu'il a commencée. Et cela bien moins pour égayer la matière que pour m'expliquer, sur la fin de mon discours, de la manière la plus claire et la plus populaire qui me soit possible. Ce dialogue de Vallat, et ses livres sur la volupté et le vrai bien, font assez voir qu'il n'était pas moins philosophe qu'humaniste. Ces quatre livres étaient opposés aux quatre livres de la Consolation de la philosophie, de Boès, et le dialogue au cinquième. Un certain Antoine Glaria, espagnol, lui demande un éclaircissement sur la difficulté du libre-arbitre, aussi peu connu qu'il est digne de l'être, d'où dépend la justice et l'injustice, le châtiment et la récompense dans cette vie et dans la vie future. Laurent Vallat lui répond qu'il faut se consoler d'une ignorance qui nous est commune avec tout le monde, comme l'on se console de n'avoir point les ailes des oiseaux. Antoine. Je sais que vous me pouvez donner ces ailes comme un autre dédale pour sortir de la prison de l'ignorance et pour m'élever jusqu'à la région de la vérité qui est la patrie des âmes. Les livres que j'ai vus ne m'ont point satisfait, pas même le célèbre Boès qui a l'approbation générale. Je ne sais s'il a bien compris lui-même ce qu'il dit de l'entendement de Dieu et de l'éternité supérieure au temps. Et je vous demande votre sentiment sur sa manière d'accorder la préscience avec la liberté. Laurent.
J'appréhende de choquer bien des gens en réfutant ce grand homme. Je veux pourtant préférer à cette crainte l'égard que j'ai aux prières d'un ami, pourvu que vous me promettiez.
Antoine. Quoi ?
Laurent. C'est que, lorsque vous aurez dîné chez moi, vous ne demanderez point que je vous donne à souper. C'est-à-dire, je désire que vous soyez content de la solution de la question que vous m'avez faite, sans m'en proposer une autre.
Antoine. Je vous le promets. Voici le point de la difficulté. Si Dieu a prévu la trahison de Judas, il était nécessaire qu'il trahît, il était impossible qu'il ne trahît pas, il n'y a point d'obligation à l'impossible, il ne péchait donc pas, il ne méritait point d'être puni. Cela détruit la justice et la religion avec la crainte de Dieu.
Laurent. Dieu a prévu le péché, mais il n'a point forcé l'homme à le commettre, le péché est volontaire.
Antoine. Cette volonté était nécessaire puisqu'elle était prévue.
Laurent. Si ma science ne fait pas que les choses passées ou présentes existent, ma préscience ne fera pas non plus exister les futures.
Antoine. Cette comparaison est trompeuse. Le présent ni le passé ne sauraient être changés. Ils sont déjà nécessaires, mais le futur, muable en soi, devient fixe et nécessaire par la préscience. Feignons qu'un dieu du paganisme se vante de savoir l'avenir. Je lui demanderai s'il sait quel pied je mettrai devant. Puis je ferai le contraire de ce qu'il aura prédit.
Laurent. Ce Dieu sait ce que vous voudrez faire.
Antoine. Comment le sait-il, puisque je ferai le contraire de ce qu'il aura dit, et je suppose qu'il dira ce qu'il pense.
Laurent. Votre fiction est fausse. Dieu ne vous répondra pas, ou bien, s'il vous répondait, la vénération que vous auriez pour lui vous ferait hâter de faire ce qu'il aurait dit. Sa prédiction vous serait un ordre. Mais nous avons changé de question. Il ne s'agit point de ce que Dieu prédira, mais de ce qu'il prévoit. Revenons donc à la préscience, et distinguons entre le nécessaire et le certain. Il n'est pas impossible que ce qui est prévu n'arrive pas, mais il est infaillible qu'il arrivera. Je puis devenir soldat ou prêtre, mais je ne le deviendrai pas.
Antoine. C'est ici que je vous tiens. La règle des philosophes veut que tout ce qui est possible puisse être considéré comme existant. Mais si ce que vous dites « être possible », c'est-à-dire un événement différent de ce qui a été prévu, arrivait actuellement, Dieu se serait trompé.
Laurent. Les règles des philosophes ne sont point des oracles pour moi. Celle-ci, particulièrement, n'est point exacte. Les deux contradictoires sont souvent possibles toutes deux. Est-ce qu'elles peuvent aussi exister toutes deux? Mais pour vous donner plus d'éclaircissement, feignons que Sextus Tarquinius, venant à Delphes pour consulter l'oracle d'Apollon, ait pour réponse « Exul in obsque cades irrata pulsus ab urbe ». Pauvre et banni de ta patrie, on te verra perdre la vie. Le jeune homme s'en plaindra. Je vous ai apporté un présent royal, ô Apollon, et vous m'annoncez un sort si malheureux. Apollon lui dira, votre présent m'est agréable, et je fais ce que vous me demandez, je vous dis ce qui arrivera. Je sais l'avenir, mais je ne le fais pas. Allez-vous plaindre à Jupiter et au parc ? Sextus serait ridicule s'il continuait après cela de se plaindre d'Apollon, n'est-il pas vrai ?
Antoine, il dira, je vous remercie, ô saint Apollon, de m'avoir découvert la vérité, mais d'où vient que Jupiter est si cruel à mon égard, et qu'il prépare un destin si dur à un homme innocent, à un adorateur religieux des dieux ?
Laurent, vous, innocent, dira Apollon, sachez que vous serez superbe, que vous commettrez des adultères, que vous serez traître à la patrie.
Sextus pourrait-il répliquer, c'est vous qui en êtes la cause, ô Apollon, vous me forcez de le faire en le prévoyant.
Antoine, j'avoue qu'il aurait perdu le sens s'il faisait cette réplique.
Laurent, donc le traître Judas ne peut point se plaindre non plus de la préscience de Dieu. Et voilà la solution de votre question.
Antoine, vous m'avez satisfait au-delà de ce que j'espérais. Vous avez fait ce que Boès n'a pu faire. Je vous en serai obligé toute ma vie.
Laurent, cependant, poursuivons encore un peu notre historiette.
Sextus dira, non, Apollon, je ne veux point faire ce que vous dites.
Antoine, comment, dira le dieu, je serai donc un menteur. Je vous le répète encore, vous ferez tout ce que je viens de dire.
Laurent, Sextus prierait peut-être les dieux de changer les destins, de lui donner un meilleur cœur.
Antoine, on lui répondrait, de sine fata deum flecti sperare precando. Cesse d'espérer fléchir par tes prières les destins divins.
Il ne saurait faire mentir la préscience divine. Mais que dira donc Sextus ? N'éclatera-t-il pas en plainte contre les dieux ? Ne dira-t-il pas, comment, je ne suis donc point libre ? Il n'est pas dans mon pouvoir de suivre la vertu ?
Laurent,
Apollon lui dira peut-être, sachez, mon pauvre Sextus, que les dieux font chacun tel qu'il est. Jupiter a fait le loup ravissant, le lièvre timide, l'âne sot, le lion courageux. Il vous a donné une âme méchante et incorrigible. Vous agirez conformément à votre naturel, et Jupiter vous traitera comme vos actions le méritent. Il en a juré par le Styx.
Antoine, je vous avoue qu'il me semble qu'Apollon, en s'excusant, accuse Jupiter plus qu'il n'accuse Sextus.
Et Sextus lui répondrait, Jupiter condamne donc en moi son propre crime. C'est lui qui est le seul coupable. Il me pouvait faire tout autre, mais fait comme je suis, je dois agir comme il l'a voulu. Pourquoi donc me punit-il ? Pouvais-je résister à sa volonté ?
Laurent, je vous avoue que je me trouve arrêté ici aussi bien que vous. J'ai fait venir les dieux sur le théâtre, Apollon et Jupiter, pour vous faire distinguer la préscience et la providence divine. J'ai fait voir qu'Apollon, que la préscience, ne nuise point à la liberté. Mais je ne saurais vous satisfaire sur les décrets de la volonté de Jupiter, c'est-à-dire sur les ordres de la providence.
Antoine, vous m'avez tiré d'un abîme, et vous me replongez dans un autre abîme plus grand.
Laurent, souvenez-vous de notre contrat. Je vous ai fait dîner, et vous me demandez de vous donner aussi à souper.
Antoine, je vois maintenant votre finesse. Vous m'avez attrapé. Ce n'est pas un contrat de bonne foi.
Laurent, que voulez-vous que je fasse ? Je vous ai donné du vin et des viandes de mon cru, que mon petit bien peut fournir. Pour le nectar et l'ambroisie, vous les demanderez aux dieux. Cette divine nourriture ne se trouve point parmi les hommes.
Écoutons, saint Paul, ce vaisseau d'élection qui a été ravi jusqu'au troisième ciel, qui a entendu des paroles inexprimables. Il vous répondra par la comparaison du potier, par l'incompréhensibilité des voies de Dieu, par l'admiration de la profondeur de sa sagesse. Cependant, il est bon de remarquer qu'on ne demande pas pourquoi Dieu prévoit la chose, car cela s'entend, c'est parce qu'elle sera. Mais on demande pourquoi il en ordonne ainsi, pourquoi il endurcit un tel, pourquoi il a pitié d'un autre. Nous ne connaissons pas les raisons qu'il en peut avoir, mais c'est assez qu'il soit très bon et très sage pour nous faire juger qu'elles sont bonnes. Et comme il est juste aussi, il s'ensuit que ses décrets et ses opérations ne détruisent point notre liberté. Quelques-uns y ont cherché quelques raisons. Ils ont dit que nous sommes faits d'une masse corrompue et impure de boue, mais Adam, mais les anges, étaient faits d'argent et d'or, et ils n'ont pas laissé de péché. On est encore endurci quelquefois après la régénération. Il faut donc chercher une autre cause du mal, et je doute que les anges même la sachent. Ils ne laissent pas d'être heureux et de louer Dieu. Boès a plus écouté la réponse de la philosophie que celle de saint Paul. C'est ce qui l'a fait échouer. Croyons à Jésus-Christ. Il est la vertu et la sagesse de Dieu. Il nous apprend que Dieu veut le salut de tous, qu'il ne veut point la mort du pécheur. Fions-nous donc à la miséricorde divine, et ne nous en rendons pas incapables par notre vanité et par notre malice.
Ce dialogue de Valla est beau,
quoiqu'il y ait quelque chose à redire par-ci par-là, mais le principal défaut y est qu'il coupe le nœud, et qu'il semble condamner la Providence sous le nom de Jupiter, qu'il fait presque auteur du péché. Poussons donc encore plus avant la petite fable. Sextus, quittant Apollon à Delphes, va trouver Jupiter à Dodone. Il fait des sacrifices, puis il étale ses plaintes. « Pourquoi m'avez-vous condamné, ô grand Dieu, à être méchant, à être malheureux? Changez mon sort et mon cœur, ou reconnaissez votre tort !» Jupiter lui répondit, « Si vous voulez renoncer à Rome, les parcs vous fileront d'autres destinées, vous deviendrez sage, vous serez heureux. » Sextus, « Pourquoi dois-je renoncer à l'espérance d'une couronne? Ne pourrais-je pas être un bon roi ?» Jupiter, « Non, Sextus, je sais mieux ce qu'il vous faut. Si vous allez à Rome, vous êtes perdu. » Sextus, ne pouvant se résoudre à un si grand sacrifice, sortit du temple et s'abandonna à son destin. Théodore, le grand sacrificateur qui avait assisté au dialogue du dieu avec Sextus, adressa ces paroles à Jupiter. « Votre sagesse est adorable, ô grand maître des dieux. Vous avez convaincu cet homme de son tort. Il faut qu'il impute dès à présent son malheur à sa mauvaise volonté. Il n'a pas le mot à dire. Mais vos fidèles adorateurs sont étonnés. Ils souhaiteraient d'admirer votre bonté aussi bien que votre grandeur. Il dépendait de vous de lui donner une autre volonté. » Jupiter. « Allez à ma fille Pallas, elle vous apprendra ce que je dois faire. » Théodore fit le voyage d'Athènes. On lui ordonna de coucher dans le temple de la déesse. En songeant, il se trouva transporté dans un pays inconnu. Il y avait là un palais d'un brillant inconcevable et d'une grandeur immense. La déesse Pallas parut à la porte, environnée des rayons d'une majesté éblouissante. « Qualisque videri colicolis et quanta solet, aussi belle, aussi grande qu'elle a coutume de se montrer aux dieux. » Elle toucha le visage de Théodore d'un rameau d'olivier qu'elle tenait dans la main. Le voilà devenu capable de soutenir les divins éclats de la fille de Jupiter et de tout ce qu'elle devait lui montrer. « Jupiter, qui vous aime, lui dit-elle, vous a recommandé à moi pour être instruit. Vous voyez ici le palais des destinées dont j'ai la garde. Il y a des représentations non seulement de ce qui arrive, mais encore de tout ce qui est possible. Et Jupiter, en ayant fait la revue avant le commencement du monde existant, a digéré les possibilités en monde et a fait le choix du meilleur de tous. Il vient quelquefois visiter ces lieux pour se donner le plaisir de récapituler les choses et de renouveler son propre choix, où il ne peut manquer de se complaire. Je n'ai qu'à parler, et nous allons voir tout un monde que mon père pouvait produire, où se trouvera représenté tout ce qu'on en peut demander. Et, par ce moyen, on peut savoir encore ce qui arriverait si telle ou telle possibilité devait exister. Et quand les conditions ne seront pas assez déterminées, il y aura autant qu'on voudra de tels mondes différents entre eux, qui répondront différemment à la même question, en autant de manières qu'il est possible. Vous avez appris la géométrie quand vous étiez encore jeune, comme tous les Grecs bien élevés. Vous savez donc que, lorsque les conditions d'un point qu'on demande ne le déterminent pas assez et qu'il y en a une infinité, ils tombent tous dans ce que les géomètres appellent un lieu. Et ce lieu, au moins, qui est souvent une ligne, sera déterminé. Ainsi, vous pouvez vous figurer une suite réglée de mondes qui contiendront tous et seuls le cas dont il s'agit et en varieront les circonstances et les conséquences. Mais si vous posez un cas qui ne diffère du monde actuel que dans une seule chose définie et dans ses suites, un certain monde déterminé vous répondra. Ces mondes sont tous ici, c'est-à-dire en idée. Je vous en montrerai où se trouvera non pas tout à fait le même Sextus que vous avez vu, cela ne se peut, il porte toujours avec lui ce qu'il sera, mais des Sextus approchants, qui auront tout ce que vous connaissez déjà du véritable Sextus, mais non pas tout ce qui est déjà en lui sans qu'on ne s'en aperçoive, ni par conséquent, tout ce qui lui arrivera encore. Vous trouverez dans un monde un Sextus fort heureux et élevé, dans un autre un Sextus content d'un état médiocre, des Sextus de toute espèce et d'une infinité de façons. Là-dessus, la déesse mena Théodore dans un des appartements. Quand il y fut, ce n'était plus un appartement, c'était un monde, solemque suum sua sidera norat, qui avait son soleil propre, ses astres propres. Par l'ordre de Pallas, on vit apparaître Dodone avec le temple de Jupiter et Sextus qui en sortait. On l'entendait dire qu'il obéirait aux dieux. Le voilà qui va à une ville placée entre deux mers, semblable à Corinthe. Il y achète un petit jardin. En le cultivant, il trouve un trésor. Il devient un homme riche, aimé, considéré.
Il meurt dans une grande vieillesse, chéri de toute la ville. Théodore vit toute sa vie comme d'un coup d'œil, et comme dans une représentation de théâtre, il y avait un grand volume d'écriture dans cet appartement. Théodore ne put s'empêcher de demander ce que cela voulait dire. « C'est l'histoire de ce monde où nous sommes maintenant en visite, » lui dit la déesse. « C'est le livre de ses destinées. » Vous avez vu un ombre sur le front de Sextus, cherchez dans ce livre l'endroit qu'il marque. Théodore le chercha, et y trouva l'histoire de Sextus plus ample que celle qu'il avait vue en abrégé. Mettez le doigt sur la ligne qu'il vous plaira, lui dit Pallas, et vous verrez représenter effectivement dans tout son détail ce que la ligne marque en gros. Il obéit, et il vit apparaître toutes les particularités d'une partie de la vie de ce Sextus. On passa dans un autre appartement. Et voilà un autre monde, un autre livre, un autre Sextus qui, sortant du temple et résolu d'obéir à Jupiter, va en Thrace. Il y épouse la fille du roi qui n'avait point d'autre enfant et lui succède. Il est adoré de ses sujets. On allait en d'autres chambres, on voyait toujours de nouvelles scènes. Les appartements allaient en pyramide. Ils devenaient toujours plus beaux à mesure qu'on montait vers la pointe et ils représentaient de plus beaux mondes. On vint enfin dans le suprême qui terminait la pyramide et qui était le plus beau de tous. Car la pyramide avait un commencement, mais on n'en voyait point la fin. Elle avait une pointe, mais point de base. Elle allait croissante à l'infini. C'est, comme la déesse l'expliqua, parce qu'entre une infinité de mondes possibles, il y a le meilleur de tous. Autrement, Dieu ne se serait point déterminé à en créer aucun. Mais il n'y en a aucun qui n'en ait encore de moins parfait au-dessous de lui. C'est pourquoi la pyramide descend à l'infini. Théodore, entrant dans cet appartement suprême, se trouva ravi en extase. Il lui fallut le secours de la déesse. Une goutte d'une liqueur divine mise sur la langue le remit. Il ne se sentait pas de joie. « Nous sommes dans le vrai monde actuel, » dit la déesse, « et vous y êtes à la source du bonheur. Voilà ce que Jupiter vous y prépare si vous continuez de le servir fidèlement. Voici Sextus tel qu'il est et tel qu'il sera actuellement. » Il sort du temple tout en colère, il méprise le conseil des dieux. Vous le voyez allant à Rome, mettant tout en désordre, violant la femme de son ami. Le voilà chassé avec son père, battu, malheureux. Si Jupiter avait pris ici un Sextus heureux à Corinthe ou roi en Thrace, ce ne serait plus ce monde. Et cependant, il ne pouvait manquer de choisir ce monde qui surpasse en perfection tous les autres, qui fait la pointe de la pyramide. Autrement, Jupiter aurait renoncé à sa sagesse, il m'aurait banni, moi qui suis sa fille. Vous voyez que mon père n'a point fait Sextus méchant. Il l'était de toute éternité. Il l'était toujours librement. Il n'a fait que lui accorder l'existence, que sa sagesse ne pouvait refuser au monde où il est compris. Il l'a fait passer de la région des possibles à celle des êtres actuels. Le crime de Sextus sert à de grandes choses. Il en naîtra un grand empire qui donnera de grands exemples. Mais cela n'est rien au prix du total de ce monde dont vous admirerez la beauté, lorsqu'après un heureux passage de cet état mortel à un autre meilleur, les dieux vous auront rendu capable de la connaître. » Dans ce moment, Théodore s'éveille, il rend grâce à la déesse, il rend justice à Jupiter, et, pénétré de ce qu'il a vu et entendu, il continue la fonction de grand sacrificateur avec tout le zèle d'un vrai serviteur de son dieu, avec toute la joie dont un mortel est capable. Il me semble que cette continuation de la fiction peut éclaircir la difficulté à laquelle Vala n'a point voulu toucher. Si Apollon a bien représenté la science divine de vision, qui regarde les existences, j'espère que Pallas n'aura pas mal fait le personnage de ce qu'on appelle la science de simple intelligence, qui regarde tous les possibles, où il faut enfin chercher la source des choses.